Alors, on va laisser la parole à Manuel Roux. Donc, Manuel qui est postdoctorant dans le projet ANR Musicovid et qui va donc nous présenter une intervention autour de l'épreuve de la tournée.
Merci.
Manu, tu as 20 minutes. Et merci. Je me mets en face parce que sinon, je vois rien.
J'aurais pu intituler cette communication « Réponse à mes anciens co-directeurs de thèse », comme quoi je ne me plains pas tant que ça, mais il y avait quand même deux, trois petites raisons de se plaindre quand même. Donc, l'épreuve de la tournée, le rapport au corps comme indétermination, j'ai rajouté le 1 apostrophe, vous allez comprendre pourquoi, de la carrière punk. Je commence par des journaux de terrain en tant que musicien de tournée, du coup. Nous commençons sur les chapeaux de roue avec Spring et son introduction de batterie qui fait toujours son effet. Ensuite vient Once Again sans transition, je hurle toutes mes tripes, je me sens tellement vivre, libre. Une telle puissance sonore se dégage du derrière de la scène, j'ai l'impression d'être le roi du monde. Vivant ces paroles, je redouble de puissance vocale, ça me fait tellement de bien, je m'envole. Seulement, j'ai à peine le temps d'apprécier ce moment de grâce que mon corps me ramène à la réalité. J'ai besoin de reprendre ma respiration, j'ai mal au ventre à force de contracter mes abdominaux. Il faut que je bouge moins, que je sature moins ma voix, je m'exécute. Malgré le fait qu'Antoine tape du pied volontairement devant Paul, pour avoir le tempo, ce dernier démarre déserteur bien trop lentement. Ce n'est pas grave, on s'adapte. Paul fait n'importe quoi sur le début de The Priest, nous rigolons avec le public. En nous excusant, nous reprenons. Les trois derniers morceaux sont passés tellement rapidement, je suis en sueur, apaisé, content de moi. Nous échangeons des regards complices et remplis de remerciements entre les membres internes de Past, mon groupe. À ce moment-là, nous nous sentons tellement proches. Et... un autre extrait d'entretien. Je ne suis pas trop rassuré de dormir dans ces locaux puisque, de souvenir, ils sont mal isolés et humides, ce qui n'arrangera certainement pas ma bronchite que j'avais avant de partir en tournée. Je jouais dans deux groupes sur cette tournée. Je crois que c'est les corticoïdes que j'essayais de prendre un jour sur deux pour ne pas avoir les effets indésirables ou bien peut-être le sandwich que j'ai mangé à midi qui ne passe pas. Je repars une dernière fois aux toilettes alors qu'Antoine me presse pour ne pas perdre plus de temps. Il est drôle, lui. Je me sens pas bien du tout, mais il faut bien y aller. Je dis à Benjamin de commencer ses premiers accords. Pile à la fin du set, au moment de m'installer pour jouer avec mon autre groupe passe, du coup, les crampes me reprennent et je refile aux toilettes en passant devant trois personnes qui faisaient déjà la queue. Pas le temps pour la politesse ou la gêne. En tournée, il faut savoir s'adapter. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Et je repars dans le local de répétition pour finir de m'installer et de faire le line check. Sans surprise, j'ai de grosses difficultés à rendre mon chant potable et j'ai l'impression de gâcher entièrement le concert. Je m'enferme dans une salle de répétition pour pouvoir me nettoyer avec des lingettes puisque ce soir, nous ne pourrons pas nous doucher. J'enfile des vêtements propres et je m'en vais me reposer sur le canapé à l'entrée. Eurodivi commence à jouer à notre groupe et remplissent le lieu de fumée, ce qui me fait tousser deux fois plus. J'essaye de rentrer dans la salle de concert, mais je ne tiens pas deux minutes. Je reviens au salon et d'autres personnes fument alors que j'essaye désespérément de trouver un endroit où respirer normalement. À la fin des concerts, je me presse de demander aux personnes organisatrices de la soirée où récupérer les matelas sur lesquels nous dormirons, anticipant ainsi le moment du sleeping. L'air de la pièce est particulièrement humide et je commence à tousser de plus belle. J'ai vraiment besoin de dormir. Sur les nerfs et à force de tousser, j'arrive enfin à m'endormir lorsque Christophe rentre après avoir profité de la soirée. Salopio. Décidément, cette date aura été l'une des plus compliquées en tournée et j'en arrive presque à me demander ce que je fais ici à m'infliger tout ça. Je me réveille naturellement à 9h fatigué, le moral au plus bas, appréhendant le concert de ce soir à Paris. Je sais que cette date est importante puisqu'il y aura beaucoup de personnes qui ont des attentes concernant le projet. Voilà, c'était un peu long. Mais ces deux extraits de mon journal de tournée que j'ai passé en tant que musicien du groupe Past sont assez parlants, je trouve, pour montrer que la tournée DIY est de spécifique. Elle semble produire deux formes d'affect radicalement opposées. Un, la difficulté et la jouissance du concert. Deux, du coup. Mais lorsque l'on interroge les musiciens après coup, seul reste un discours relatant la nostalgie des meilleurs moments passés en tournée, la joie, l'intensité émotionnelle ressentie, désormais perdue, contrebalancée par le retour à la maison, vécu comme Mord, ce fameux post-tour dépression. Je passe l'entretien pour gagner du temps. Mais vous l'avez certainement lu. Cela dit, à y regarder de plus près, ce discours sur la passion dépend directement de conditions matérielles bien concrètes. Hein, vous l'avez bien compris là. Il semblerait qu'il tienne alors plus de l'idéologie lorsqu'on le rapporte à sa réalité concrète, qui est plus complexe, à l'image de mon carnet ethno. C'est par la mise à l'épreuve du corps lors des tournées que se rejoue actuellement des enjeux d'authenticité dans cette scène DIY. Savoir endurer, détourner en faisant comme si de rien n'était, voire en valorisant le fait de chercher à jouer partout, dans n'importe quelles conditions, voire à considérer que les conditions de jeu, plus les conditions de jeu sont difficiles, plus les groupes sont publicités pour leur engagement corps et âme dans leurs activités musicales. Car dans la scène punk DIY, les groupes organisent eux-mêmes leurs tournées. Ils parcourent la route pendant des mois sans attendre systématiquement de rémunération en échange de leurs prestations. À ce titre, l'activité intense du groupe danois Axis, on voit d'ailleurs leur tournée là, Dingo, est particulièrement significative. Ses membres sont félicités par l'ensemble de la scène européenne pour leur performance, avoir organisé eux-mêmes et effectué 111 concerts en 109 jours, dans les conditions de prestations particulièrement difficiles, bien loin du confort des salles professionnelles et subventionnées. Le terme « crust » qui s'applique alors à ce type de performance désigne à la fois un style de musique extrême du hardcore, c'est-à-dire une branche du punk, mais aussi un style de vie punk qui valorise la recherche de conditions toujours plus extrêmes de tournée. D'ailleurs, là, je prends un entretien du chanteur de Birds in Row, juste pour illustrer ce que je dis. Je pense que déjà dans notre scène, il y a ce côté, si tu mets beaucoup d'efforts dedans, les gens se disent, ils essayent de mettre du cœur, ils sont passionnés. Tu vois un groupe comme Axis, donc ce fameux groupe danois, qui ne sont pas forcément plus reconnus que ça en soi, mais les gens sont là, putain, ils font 110 dates d'affilée. Déjà, tu as ce premier niveau de reconnaissance-là. Je ne sais pas si on peut parler, si on peut dire que c'est de la méritocratie, mais il y a quand même ce délire. En même temps, si tu ne fais rien, on ne va pas s'occuper de toi. Il faut que tu te bouges le cul pour avoir cette forme de reconnaissance. Dans ce jeu d'authenticité-là, là, c'était la première tournée de Birds in Row, du groupe Birds in Row français dans un tourbus. Vous voyez les enjeux d'authenticité. Il a fait j'ai fait cette capture Instagram de sa story où il disait, au cas où, je vais quand même continuer à dormir par terre. Il y a un peu de confort, mais je suis un vrai punk, alors du coup, je vais dormir par terre. Donc, on voit, c'est assez rigolo quand même. Donc, ce style de musique, confinant à la précarité, sinon à une forme de, entre guillemets, clochardise, constitue un régime de radicalité punk spécifique qui détermine les règles, les formes et les logiciels de l'authenticité artistique de la scène DIY. Il rappelle ce que le psychanalyste, oui, je fais un peu de psychanalyse du coup, j'en rajoute un petit peu dans ma... Mais on pourra en parler si vous voulez. Donc, le psychanalyste Gérard Zweck, je ne sais pas comment on prononce, appelle les galériens volontaires. Ces hommes qui rament, entre guillemets, courent, nagent jusqu'aux limites de leur force, puis recommencent sous l'effet d'un plaisir, mais d'une contrainte de répétition d'un comportement à l'identique. Il décrirait un fonctionnement psychique sur un surinvestissement de l'actuel qui annule toute mise en perspective et toute historicisation. Dans le domaine de l'art, ce phénomène est vu comme, je cite, une radicalisation d'une dimension sacrificielle par la mise en exposition d'un corps-monde spectacularisé. Et là, une petite citation de Bruno aussi. « Je suis content, je vis de la musique et tout le monde peut trouver que je suis chanceux et être envieux. N'empêche que si, même moi, en étant conscient et content de le faire, je termine aux urgences à la fin d'une tournée, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de le faire, surtout de la manière dont je le fais, où tous les gens viennent nous voir pour nous demander comment ça se fait que l'on ait autant d'énergie avec toutes les dates qu'on fait. » Ça, on nous l'a dit un jour sur deux en tournée, ça fait plaisir parce que tu te rends compte que les gens sont conscients de ce que l'on fait. Dans le cas du punk, c'est intéressant puisque la clé de voûte de ce régime d'activité est un désintéressement radical où le corps peut être mis à forte contribution, ce qui pousse la logique de l'engagement désintéressé jusqu'à son paroxysme. Le punk, je cite encore Bruno, pour lui, sa définition du punk, c'est mettre tout dans un projet et avoir les couilles de tenter jusqu'au bout. Entrepreneuriat radical. Comme le montrent les propos de Bruno, les punks donnent le sentiment de maintenir et de valoriser un mode de vie en apesanteur sociale et idéologique qui tente de s'extraire des contraintes matérielles de la société contemporaine, postmodernisme. Rentabilité, confort, consommation. Cette posture radicale théorise l'authenticité punk DIY en l'assujettissant au principe et à l'exercice d'une vie ascétique qui ne peut donc se situer qu'aux marges de la société et du système. Se pose alors du coup, c'était une longue introduction, excusez-moi, mais bon, il fallait que je pose bien le truc. Se pose ainsi la question du corps comme principale indétermination de ce que l'on pourrait appeler la carrière punk. Comment ces punks peuvent-ils endurer ces conditions de jeu, pour certains de 100 à 200 dates par an, c'est énorme, et sur plusieurs années, dans cette sorte de déni du corps qu'il soit social, celui de toute inscription dans n'importe quelle structure instituée, ou physique. Est-ce qu'il faut être jeune et avoir une santé d'acier pour être punk? Je recale par rapport à ce qu'on disait en introduction. Pourquoi alors la pratique de la tournée européenne, voire internationale, semble être devenue la norme pour les groupes de la scène DIY? Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout traiter. Mais pour tenter d'y répondre, je vous propose une analyse du logiciel idéologique des punks croisés à la poursuite de carrière artistique punk de la scène DIY, c'est une scène spécifique contemporaine, par l'objet de la performance du corps. 30 carrières ont fait l'objet d'entretiens, de suivis réguliers sur 5 à 6 années, dans le cadre de ma thèse et de mon master, qui vient d'être soutenu en juin dernier. Tout cela basé sur mon expérience de la scène DIY en tant que musicien du groupe Past. Alors, que font-ils ? Déjà, étymologiquement, le terme de performance renvoie à l'idée d'accomplir, exécuter ou achever. Elle peut être un résultat sportif exceptionnel, un record, une réussite remarquable dans toutes sortes de domaines, un travail exécuté en moins de temps qu'il n'était prévu, etc. On peut aussi bien parler de performance esthétique, et elle est nécessairement associée à l'idée d'amélioration. Elle suppose accroissement et comparaison, c'est-à-dire un rapport de valeur, soit encore une forme de mesure. Mais le terme de mesure est ambivalent, il se rapporte autant à l'exactitude du quantifiable qu'à la tempérance et à l'inquantifiable, et suppose une distinction implicite entre le corps quantifiable et l'âme, le transcendant. La performance, de par sa nature précaire, doit être vécue, entre guillemets, en live. Elle réactualise, dans le cas du concert, son caractère éphémère primordial. On le répète à chaque fois. Rapportons cette définition au cas du punk, du concert punk. Les punks, à l'affût du moindre endroit susceptible d'être transformé en salle de concert, ça peut être autant un kebab qu'un squat, on peut tout imaginer. Les musiciens sont voués à jouer dans de nombreux lieux qui ne respectent pas les mêmes normes d'installation que celles des salles conventionnelles. En enchaînant les tournées, ils doivent composer en permanence avec la spécificité des lieux, du matériel à disposition, des configurations scéniques, toujours différentes, tout en réalisant eux-mêmes le déchargement et le chargement du matériel. Tous ces éléments peuvent expliquer en partie la logique du plug and play, autrement dit une adaptation constante aux différentes situations ou aux divers problèmes qu'elles peuvent générer, que l'on soit insonorisé ou non, que l'on joue par terre ou sur scène, l'important est de maîtriser son propre matériel pour pouvoir assurer une prestation similaire dans n'importe quel cas de figure. Et donc je passe le journal ethno. L'illusion consiste donc à faire croire qu'il y a seulement besoin de brancher son ampli et de régler le volume au niveau le plus élevé, de frapper fort sur sa batterie, sur une batterie, et de hurler à plein poumon dans un micro pour exprimer la sauvagerie de ses émotions. La scène DIY devient alors le théâtre, un théâtre dans lequel les punks mettent en scène le détachement, voire la transcendance des conditions matérielles et techniques qui pourtant conditionnent leur manière de faire de la musique. Cette esthétisation de la performance ou cette performance de l'esthétisation dans ce rapport à la contrainte matérielle relève d'un travail consistant, entre guillemets, je cite Bourdieu, à la fois à mettre en forme et mettre des formes sur ce qui relève d'un sens pratique principe de la scène de la musique punk live. Ses valeurs et ses codes particuliers règlent l'espace de jeu et le jeu lui-même, autant localement sur les lieux punk ou dans l'espace du concert que dans l'imaginaire de la tournée ou dans les projections d'action et d'échanges bien au-delà des frontières. La performance punk redouble ici de paradoxe puisque elle vient se nicher dans l'ambiguïté citée ci-dessus, celle qui repose sur une opposition antique entre corps et esprit. L'apparente simplicité mise en scène est une sorte de performance de l'anti-performance, celle de l'esthétique non esthétique, sur laquelle repose une sorte de hiérarchie sociale, hein, le capital contre-culturel, au prisme des conventions partagées du non-conventionnel. Voilà, c'est ce que j'appelle le capital contre-culturel, qui n'a jamais trop été encore conceptualisé, et qu'on essaie, là on essaye de le faire avec Luc et Solveig, et on a essayé de l'embrayer dans ma thèse, et qui repose sur, voilà, je vais le dire rapidement, sur une double négation, cette idéologie renversant doublement le sens hiérarchique des raisons qui explique l'engagement artistique par un déni du corps comme objet entravant la carrière, qui d'ailleurs ne doit pas en être une. Comment ils le font? Alors pour le dire assez rapidement, il y a la période après post-bac, hein, un temps un peu libéré, on va dire, pour ceux qui peuvent se permettre, surtout avec des parents qui aident, où ils arrivent à bricoler entre les études, ce que peuvent offrir les parents, et partir en tournée du coup voilà pour ça. Après vient le temps, la raréfaction quand on commence à vieillir, du temps social, totalement préservé des contraintes extérieures et permettre en toute liberté la découverte du punk qui conduit au moment décisif mais non irrévocable de l'engagement punk comme choix de vie. Ce moment correspond généralement à l'entrée à l'âge adulte. Là je cite Matisse, aujourd'hui on a un point où l'on cherche un petit peu plus de confort parce que ça fait 10 ans. Tu vois, Timothée, il est parti à cause de ça. Voilà, il était parti parce qu'il n'avait pas d'argent quand il rentrait. Il faisait trop de tournées. Et c'est à ce moment-là qu'on a pris conscience que peut-être qu'il fallait qu'on se ménage un peu. Hein. Donc, arrivé à 27, 30 ans, ils ont commencé à... Ouais, mais attends, 150 dates par an. Hein, je pense que personne ici a connu ce truc-là. 150 dates par an, je crois pas. Ouais. Surtout dans les squats et compagnie, c'était pas des smacks, encore une fois. Et aux États-Unis, on sait les conditions de tournée aux États-Unis. Pas de sleeping, hein, pas de catering, rien, on se débrouille. Je voudrais dire un dernier truc, pourquoi font-ils ça? Et là je cite ce que disait Franck du coup. Quelqu'un qui réussit dans le DIY, ce n'est pas quelqu'un qui a de l'argent. Par contre, il y a quand même une réussite sociale. Celui qui réussit, c'est celui qui acquiert l'influence, le fait que les autres valident le discours. Très souvent, ce sont des hommes blancs et de classe moyenne. Cet idéal, on voulait le déconstruire, mais on ne l'a pas fait du tout. Aujourd'hui, quand tu veux partir en tournée, tu te retrouves en compétition avec d'autres groupes. Quand tu bookes une tournée, l'objet ultime, c'est zéro day off. C'est un idéal de réussite qui ressemble étrangement à celui de la productivité dans le capitalisme. C'est le fait de se dire que l'on a un day off, c'est perdre de l'argent. L'hypothèse de la rationalisation des pratiques punk sans qu'elles soient pour autant assignées systématiquement à des formes de rémunération, l'engagement du corps dans une poursuite d'une carrière musicale qui a les allures d'une fuite en avant sans lendemain, s'explique en grande partie par la récupération indirecte des activités des musiciens de la scène par les majors. Et ça, on pourra en parler si vous voulez. C'est des résultats de thèse, du coup, qui ont été publiés là en juin. Éclairer ce principe de rationalité qui est aussi entre réussite symbolique et réalité marchande, tout en jouant sur l'illusion de maîtriser la posture éthique, voire en déniant les effets sur le corps qu'une telle posture engendre, permet d'objectiver à plus grande échelle la place des acteurs qui interviennent dans les chaînes d'interdépendance. Projetée à l'échelle internationale, cette observation permet par exemple de comprendre comment la réalité marchande préside globalement à l'impératif de productivité au sein de la scène punk hardcore. Les effets de concurrence, d'efficacité, d'adaptabilité, d'enjeux à la visibilité, en somme de rationalisation des pratiques, imprègnent l'ensemble de la scène punk jusqu'à ses plus petites microstructures. Cette rationalisation des activités, quoique paradoxale ou contre-intuitive pour le punk, bel et bien intériorisée, peut néanmoins se comprendre si l'on tient compte des raisons objectives qui déterminent les conditions d'existence concrètes des artistes. Celles-ci ont d'abord le résultat d'une confrontation entre les intérêts classiques inhérents à la diffusion des œuvres et à la valeur marchande, avec l'éthique anti-économique du punk propre à cette logique puriste de création artistique. Et je termine. C'est la raison pour laquelle cette économie des biens culturels organisée en réseau à l'échelle internationale entre en résonance avec une logique compensatoire de mobilité. Ce principe repose sur le fait que, les musiciens redirigent leur stratégie de carrière vers la pratique du booking. Cette situation peut être expliquée par le déséquilibre inédit entre deux logiques de légitimation artistique différentes, autrefois en équilibre, celle du marché et celle de la redistribution publique. Cette tendance nouvelle qui dépasse le cadre national pour s'enraciner globalement dans le marché de biens symboliques oblige les punks à redéfinir leur logiciel idéologique pour faire face à ces effets de mondialisation ou de capitalisme mondialisé. Je vous remercie. Je vais faire en fait une conclusion sur le fait que c'est un rapport très genré d'ailleurs au corps. Le fait d'oubli du corps, tout ça, et qu'à ce jeu-là, voilà. Donc on pourra en parler.
Ouais, c'était très intéressant. Est-ce que tu penses que le fait qu'il y a un sentiment de groupe, le fait que les gens ne sont pas justement tout seuls, que les artistes ne sont pas tout seuls au vent, mais qu'en fait, le fait que ce soit un groupe, du coup, permet du coup de passer outre tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer en tournée, le fait de faire 100 dates en un an, ce genre de choses. Est-ce que tu penses que l'effet de groupe, l'effet de bande, permet une meilleure solidité mentale à ce genre d'épreuve que s'ils auraient été tout seuls, par exemple, ou ce genre de choses?
Je pense que c'est à double tranchant, ça dépend du groupe en fait. Hein. Concrètement, pour en avoir discuté avec pas mal, soit l'épreuve de la tournée ça casse un groupe, ouais. Soit au contraire, les membres peuvent changer justement parce qu'il y en a qui sont des fois plus jeunes, notamment à la batterie, qui peuvent se dire bon, mais moi j'ai envie de tourner comme un bourrin, et qui intègrent des groupes qui tournent pas mal. Et il y a vraiment, ça dépend. Mais je pense qu'effectivement, dans le cas où ça marche, dans le cas où vraiment, et surtout pour les groupes où il y a moins de personnes dans les groupes, j'ai l'impression, là je fais l'hypothèse, hein, mais une espèce de, comment dire, de structure collective affective se met en place certainement. Et le fait de vivre ensemble des difficultés en tournée, je pense que ça solidifie. Et puis il y a aussi un rapport très idéologique qui se crée, d'un point de vue très communautaire, à l'échelle du noyau du groupe, qui peut être, voilà, on est des vrais parce qu'on est en tournée par rapport à d'autres groupes, voilà. Et donc ça peut aussi motiver. Mais effectivement, le fait de vivre ensemble certaines galères et certains grands moments aussi, il faut en parler aussi, hein, des grands moments, des concerts qui restent là et qui redonnent la motivation à chaque fois, ça marche comme ça, hein. Voilà, il y a tout ça. Donc je sais pas si je réponds entièrement à ta question, mais c'est difficile de savoir. J'ai pas fait en fait une thèse sur les groupes spécifiquement à l'intérieur des groupes, quoi. Après effectivement, je peux parler de mon expérience et de ce que j'ai observé, mais après parler plus généralement, c'est un peu compliqué, ouais.
Alors moi je prends la parole, je peux pas m'empêcher, hein. Parce que donc moi je dirigeais avec Luc la thèse de Manu. Quand j'ai lu le carnet ethnographique, j'ai hurlé de rire au début. Mais non, mais en fait, je suis très, et j'entends Christophe à côté de moi, auquel je n'ai pas parlé, quand tu dis que tu peux pas prendre ta joue, dire oh ma chochotte. Alors, si tu veux, ce que je veux dire par là, c'est que je suis extrêmement intéressée, hein, et c'est pas du tout une critique, tu le sais bien, Manu, par la manière que vous avez, dans cette scène de présenter des choses. Je te donne un exemple. Nous, avec Luc, on travaille sur un groupe qui s'appelle New Model Army. Ils ont 60 ans, on connaît très bien le chanteur. New Model Army, depuis 40 ans, c'est 120, 130, 140 dates par an. Je les ai jamais entendus se plaindre, jamais dit que c'était dur. Et pourtant, ils sont autoproduits. Ils sont dans des configurations assez proches de celles de la scène dont tu parles, mais ils ne la théorisent pas comme ça. Jamais entendu ni se plaindre, ni le fait juste le bonheur de jouer. Du coup, je rebondis aussi sur ce que tu as dit. Moi, je fréquente des groupes, alors ils sont plus vieux, forcément. Jamais entendu aucun chanteur faire des vocalises. Alors, écoute, merde, je suis pas sûre que Gégé, on en parlait tout à l'heure, fasse des vocalises. Jamais entendu des... Et du coup, je me pose la question du décalage générationnel. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose? Alors, je sais pas comment le formuler, mais tu vois, on dit, j'en parle avec Hyacinthe, tu dis, c'est dur, on n'a pas toujours un catering. Moi, quand je vais au boulot, mon repas m'attend pas. Tu vois, il y a aussi ça quand même. Il y a ce qu'on considère qu'on a droit. Enfin, je considère ça tout à fait normal. Évidemment que les groupes aient un catering, et vous savez bien, après le repas de pain du midi, que pain aussi a son catering. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a, je trouve, une manière de regarder la réalité qui est totalement idéalisée. Si tu veux, 120 dates, tu fais ton métier, tu tournes, tu as le plaisir de faire de la musique, c'est comme ça, c'est dur, mais en fait, justement, tout est dur, moi je trouve. Enfin, voilà, il y a vraiment un hiatus. Enfin, Luc, je pense que je voudrais que tu prennes la parole en tant que guitariste. Hein. Mais moi, quand je vais écouter les Yens, j'ai jamais entendu que c'était dur. Jamais une fois que ça a été théorisé comme ça. Et donc, je m'interroge, est-ce que, parce que Sacha aussi, ton groupe, il est jeune, est-ce que c'est une question de génération? Est-ce que, en fait, voilà,
Vas-y. Y a plusieurs choses que tu dis. Tu parles d'un groupe américain déjà, c'est deux situations.
Anglais. C'est anglais.
C'est anglais, pardon. Mais c'est les mêmes conditions, pas de catering, pas de sleeping, etc. Enfin, les pays anglophones en conditions de tournée, c'est quand même pas pareil.
Et oui, on en a discuté, et très bien pour lui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mais non, mais c'est des sujets intéressants, parce qu'on a l'air de se chamailler, mais c'est des vraies discussions, donc c'est important qu'on les ait quand même. Moi, sur les deux journaux que tu as lus, il n'y en a qu'un où je me plains, comme ça. Il n'y en a qu'un. Pourquoi je me suis plaint comme ça ? C'est parce que j'étais sur le coup, j'étais malade, j'avais la chiasse, voilà. J'avais besoin d'extérioriser sur le truc de la tournée. Donc voilà, forcément, si tu te bases sur ce journal, tu te dis forcément, voilà, c'est dur. Allez, ensuite, je ne pense pas que si tu vas demander aux gars de Birds in Row, aux gars de 9-11, etc., ils te diront la même chose. Ils te diront que c'était dur, ils te diront non, c'est génial. C'est bien ce que j'ai essayé de montrer d'ailleurs dans le début de ma présentation. Ne reste que le truc génial de la tournée. Moi, je me pose une autre question, pourquoi on idéalise la tournée ? Pourquoi on idéalise une forme musicale très particulière en se disant il faut que ça soit dur, il faut que ça, même pas qu'il faut que ça soit dur, on s'en fout que ça soit dur, il faut que ça soit génial. Moi, je me pose la question. En plus de ça, vous êtes, je pense, les premiers à avoir vu que ce discours-là, il était contradictoire à la volonté de pas se professionnaliser, de vouloir le faire à la dure et d'être contre les SMAC. Et en même temps, on peut pas dire regarde là, tu te plains des conditions dans lesquelles tu joues. Enfin, je veux dire, pour moi, si vraiment on a envie de leur faire comprendre à ces punks-là que ce qu'ils font, c'est du travail, et qu'en même temps, ils ont des droits, et qu'il faut qu'il les relève, il faut qu'il aussi parle des conditions de jeu dans lesquelles ils sont concrètement, quoi. Et là, concrètement, on n'en est pas là dans ce discours-là. Donc, moi, je veux bien entendre ce discours-là, mais il ne faut pas qu'on rentre dans cette forme paradoxale où, finalement, donc, soit c'est un plaisir et qu'importe les difficultés, et ok, on le dit comme ça, et ça reste un plaisir, ça reste un truc hors sol, et c'est pas du travail, et ça peut s'entendre, hein. Soit on considère que c'est du travail et on essaye de faire valoir les droits de ces personnes-là, et du coup, il faut parler des conditions concrètes dans lesquelles ils jouent. Et pour moi, New Model Army, pour moi, hypnose, c'est pas les parangons de la musique. Enfin, voilà, moi, je... Pardon, mais bon, ils se plaignent pas, et c'est très bien, j'entends. Mais moi, sur mon carnet, en tout cas, de tournée, j'ai eu besoin à un moment de le dire, et voilà. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je n'aurais plus ce discours-là que j'avais pendant que je bookais moi-même mes tournées comme Manu, etc., où je te disais, je fais ça pour la passion, je suis un vrai parce que je tourne comme un bourrin. Bon, maintenant, au bout d'un moment, bon, ouais, c'est un rapport aussi très idéologique à sa pratique culturelle, et je trouve qu'on gagnerait effectivement à montrer ce que c'est concrètement. Pas comme les Feux Chatterton, la manière dont ils jouent. Ça, c'est pas la version normale, hein, ça, des artistes ordinaires. Hein. C'est pas vrai. Ce qui se passe là dans la version normale, c'est plutôt ce qui s'était passé, quoi. Donc, j'ai envie de même dire, c'est plutôt le quotidien d'un artiste ordinaire ce qui a été vécu. Et c'est pas parce que je le montre de manière un petit peu, je relève le caractère éreintant, extraordinaire, c'est pas ça que j'ai voulu montrer. Au contraire, j'ai voulu montrer que c'était un ordinaire, quoi. Et on peut se poser la question, pourquoi ça devrait être un ordinaire? Bon, en tout cas, moi, je laisse la question ouverte. Voilà. Mais merci en tout cas pour ta remarque, Solveig.
Une dernière question rapide, ou pas? Sinon, question rapide, réponse rapide, s'il vous plaît. Après, on laisse la parole à Coralie, merci.
Juste une remarque, tu me dis si je me trompe ou pas. J'ai l'impression que quand tu es jeune, tout jeune, sur les premières tournées, en chier, c'est accumuler du capital symbolique.
Concrètement. Voilà. Non, mais t'as clairement dit ça, quoi. Effectivement. Et tu commences à te poser des questions après, effectivement.